Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec l'actualité. Voici le principal titre du journal. Démolition des immeubles à Kintambo Magasin à Kinshasa. Devant les députés nationaux, la ministre des Affaires foncières révèle que les maisons étaient illégalement construites sur le domaine public de l'État. Criminalité en hausse à Goma, au Nord Kivu, depuis l'occupation de la ville. 30 morts en 2 semaines enregistrées. Les habitants sont terrorisés par les attaques de M23, des évadés de la prison de Mounzenze et des combattants Wazalendo. Signature d'un accord entre la Commission nationale des réfugiés et l'Office français pour le réfugié et l'apatride. Un partenariat stratégique pour renforcer les compétences et les capacités des membres de la CNR visant à améliorer la gestion et la protection des réfugiés et apatrides en RDC. Découvrez les détails avec notre invité Eric Mukandila Malou, secrétaire permanent de la CNR. C'est tout pour les titres. Gisèle Cage à la présentation de ce journal. Comme indiqué tout à l'heure, la démolition des immeubles à Kintambo Magasin par le gouvernement provincial a suscité une question d'actualité de la part du député national Gratien Iranka à l'adresse de la ministre des Affaires foncières. Lors de la plénière de lundi, l'élu de Bounia en Ituri a exigé les explications de la ministre Acacia Bandumbola concernant ces démolitions effectuées sans avertir au préalable les populations concernées. Dans sa réponse, la ministre des Affaires foncières a expliqué que cette action a été menée par le gouvernement provincial pour renforcer l'autorité de l'État dans les secteurs fonciers. À vous, Michel Kifindangoy.
Par cette question d'actualité, l'élu de Bounia recherche les véritables causes qui motivent ces démolitions, rendant plusieurs familles sans domicile. Gratien Irachan.
Selon les informations en notre possession, les occupants des immeubles érigés dans ces secteurs n'ont pas été avertis des actions qui allaient suivre. Pourriez-vous nous dire exactement ce qui se passe dans cette commune? Pourquoi des grandes machines détruisent ces maisons avec comme conséquence des familles entières dans les rues de Kinshasa sous les étoiles et ayant perdu tous les biens?
Dans sa réponse, la ministre des Affaires foncières estime que cette décision vise notamment la préservation de la sécurité collective de la population. Acacia Bandumbola.
Les opérations de démolition des maisons d'habitation dans la commune de Kintambo ont été lancées par les gouvernorats de la ville de Kinshasa. Il s'agit des maisons se trouvant le long de la rivière Mampenza et celles situées le long de la ligne ferroviaire. Il faut également relever que ces constructions se trouvent sur les terres dites domaines publics de l'État.
La question d'actualité n'appelant pas de débat, c'est par la réponse de la gestionnaire du secteur foncier de la RDC que la plénière a clôturé l'examen de cette problématique.
Dans la province du Kwilu, le nouveau gouverneur de la province, Philippe Akamituna Ndolo, a officiellement pris ses fonctions à l'issue de la cérémonie de remise et reprise qui s'est tenue jeudi 15 mai avec le gouverneur intérimaire sortant, Félicien Kiwai Mwadi. Cette cérémonie dirigée par l'inspecteur provincial de la territoriale s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, Claude Kumpel Mpassi, des membres du gouvernement sortant, des autorités sécuritaires et de plusieurs autres personnalités. À cette occasion, Philippe Akamituna a promis de travailler pour sortir la province de la pauvreté. Le point avec Irène Bomalozolo.
C'est à l'issue de cette cérémonie de remise et reprise organisée jeudi au gouvernorat de la province du Kwilu à Bandundu que Félicien Kiwai a cédé officiellement le bâton de commandement à Philippe Akamituna. Devant la presse, le gouverneur intérimaire sortant s'est exprimé en ces mots.
Nous avons le sentiment de joie, nous avons fait notre part. Nous souhaitons la bonne chance au gouverneur nouvellement élu. Nous serons ensemble avec lui d'une manière ou d'une autre.
Dans ses premiers mots officiels, les nouveaux locataires du gouvernorat du Kwilu promet de travailler dur pour redonner l'espoir à la population kwiloise et à tout faire pour booster le développement de cette province dite pauvre. Philippe Akamituna.
Je crois que mon objectif général, c'est de sortir la province du Kwilu de la catégorie des provinces pauvres de la RDC. C'est de donner l'espoir dans la façon de travailler, mais nous demandons à la population de nous accompagner. C'est comme j'ai dit dans la salle que même s'il faut tailler les chemins dans les rocs, nous les taillerons pourvu de faire avancer cette province.
Rappelons que le professeur Espoir Massaman, qui est le nouveau vice-gouverneur de la province du Kwilu. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Ce vendredi, le territoire de Fizi accueille une délégation composée des membres du gouvernement central et de la province du Sud Kivu. Cette visite a pour but de témoigner de la solidarité envers la population durement touchée par la catastrophe naturelle survenue dans la nuit du 9 au 10 mai qui a causé une centaine de morts, de nombreux disparus et d'importants dégâts matériels. L'administrateur du territoire, Sami Kalonji Badibanga, espère que cette délégation proposera des solutions concrètes aux problèmes qui affectent sa juridiction. Il l'a dit à Radio Okapi.
Cette délégation va apporter un message de compassion du gouvernement central pour soulager tant soit peu cette population dominée et qui manque presque tout, les vivres, les enfants, les femmes enceintes, les blessés qui sont éparpillés à travers les différentes formations sanitaires du littoral du lac Tanganyika. Nous attendons que cette délégation puisse arriver pour s'en rendre compte de plusieurs besoins qu'attend non seulement le village Kasaba, mais aussi les territoires de Fizi. La présence de cette délégation doit apporter un plus au territoire de Fizi dans la mesure où elle vient se rendre compte des difficultés auxquelles nous faisons face en tant qu'autorité territoriale. Cette délégation va également s'en rendre compte des plaidoyers que nous avons à maintes fois menés auprès du gouvernement central pour pouvoir nous réhabiliter la RN numéro 5.
Ce journal se poursuit sur Radio Okapi. L'actualité inclut notamment la criminalité qui reste un sujet de grande préoccupation à Goma au Nord Kivu. Au cours de deux dernières semaines, du 25 au 10 mai, au moins 30 personnes ont perdu la vie. Le dernier incident en date est l'assassinat dans la nuit de jeudi à vendredi d'un chef d'avenue et d'un chef de 10 maisons dans le quartier Mugunga à l'ouest de la ville. Ce constat émane d'un rapport récent de Conseil communautaire de la jeunesse de communes de Goma et de Karisimbi. Les auteurs présumés incluent des membres du M23, des évadés de la prison de Mounzinze et certains Wazalendo qui refusent de déposer les armes. Le point avec vous, Jacques-Yves Molima.
Les deux cadres de base, Safari et Mubano, de l'avenue Tiavou, dans les quartiers Mugunga, ont été tués vers 20h locales alors qu'ils voulaient secourir leurs administrés menacés. Les bandits armés leur ont tiré dessus à bout portant avant de s'éclipser, abandonnant deux armes à feu sur les lieux. Ces deux victimes viennent de rallonger la liste du nombre de personnes tuées à Goma. Dans ce tout premier rapport conjoint intitulé Goma Hebdo, les deux structures de la jeunesse parlent de 15 personnes tuées par arme à feu, 9 corps découverts sans vie, 3 autres cas de justice populaire et 2 autres de suicides ainsi que de blessés rien que ces deux dernières semaines. La commune de Karisimbi a enregistré plus de cas de cette tuerie et continue à enregistrer d'autres. C'est précisément dans les quartiers Mugunga, Ndosho, Kasika, Mabanga Sud et Bujovu. Des éléments présumés du M23, des prisonniers évadés de Mounzinze et certains bandits assimilés au Wazalendo sont indexés. Signalons que durant cette même période, plus de 100 maisons ont été aussi cambriolées par des porteurs d'armes en tenue militaire, toujours dans ces quartiers et 3 autres de la commune de Goma.
Mercredi dernier, l'Université chrétienne bilingue du Congo, UCBC à Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, a organisé une conférence sur le thème « La contribution de l'élite universitaire à la construction de l'esprit patriotique pour un Congo émergent, fort et respecté ». Cette initiative menée par le secrétaire général de la recherche et comité scientifique de l'université avait pour objectif d'encourager les étudiants à jouer un rôle actif dans la transformation sociale à travers des échanges enrichissants. Innocent Borauzima, secrétaire général à la recherche de l'UCBC, a partagé ses réflexions au micro de Marc Marofimbo.
Il s'est constaté que par manque d'engagement patriotique, des visions révolutionnaires et des leaderships transformationnels assumés, les élites universitaires congolaises n'ont pas réellement joué leur rôle. qui est celui d'influenceur. Et ce constat révèle que dans la vie pratique quotidienne de la société congolaise, la classe des élites, qui est censée montrer l'exemple, orienter la masse, encadrer la jeunesse, cette couche-là, qu'on appellerait élite, excelle dans la promotion plutôt des antivaleurs dans la gestion des affaires publiques, même dans des petites associations, des antivaleurs, même dans les églises. Et ceci est souvent caractérisé par les détournements des deniers publics, la corruption, le trafic d'influence, le népotisme, le clientélisme, le tribalisme, l'injustice, la démagogie, et vous pouvez augmenter d'autres antivaleurs.
Et dans la province de la Tchopo, le gouverneur a inauguré les travaux de reconstruction de l'entrepôt de la centrale des distributions des médicaments essentiels de Kisangani. La cérémonie de pose de la première pierre s'est tenue hier dans l'enceinte de cette association à but non lucratif de droit privé congolais. La durée prévue pour la réalisation des travaux est de 10 mois. Reportage de Jacques Mokongolais.
La construction de cet immeuble est financée notamment par le gouvernement central et la Kamekis elle-même à hauteur de plus de 386 000 dollars américains. L'incendie de son entrepôt d'une capacité de 1624 mètres cubes en août dernier avait entraîné des conséquences certaines, comme l'explique la sœur Jeanne-Marthe Amissi, présidente du conseil d'administration par intérim.
Des graves conséquences sur la continuité des soins des malades sous traitement antituberculé et antiroviral, mais également sur les risques éventuels de la survenue des épidémies par défaut de traitement correct.
D'autres financements, dont celui du gouverneur des provinces, sont attendus dans un meilleur délai. Au regard de l'importance de la Kamekis et des sacrifices consentis pour sa reconstruction, le gouverneur des provinces, Paulin Ngolia, enjoint l'entreprise de construction et la Kamekis à veiller respectivement sur la qualité et la sécurité de cet ouvrage.
Aux dirigeants des Kamekis, je vous demande de veiller surtout intégrer des dispositifs efficaces, fonctionnels et permanents de lutte contre l'incendie.
Rappelons que la mission de la Kamekis est de rendre disponibles les médicaments et autres produits de santé de qualité aux formations médicales aussi bien publiques, confessionnelles que privées, au meilleur prix. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
En Ituri, hier jeudi, l'Organisation internationale Médecins sans frontières a remis une ambulance à la clinique Salama dans la ville de Bunia. Cette donation s'inscrit dans le cadre du projet d'urgence et de prise en charge des malades que cette organisation internationale mène dans les zones affectées par les conflits armés. John Kakulengendo, médecin directeur de cet hôpital, a salué la qualité de l'aide apportée par cette organisation humanitaire depuis plus de 2 ans pour la prise en charge des blessés en Ituri. Il a également invité d'autres partenaires à soutenir cette initiative visant à sauver des vies. Il s'est exprimé au micro de Ezekiel Mouzalia.
C'est un appui de prise en charge de tous les blessés en Ituri. Ça peut être les blessés par balle, les blessés par arme blanche, les gros accidents de trafic routier, les gros cas de brûlure. Voilà, MSF est venu nous appuyer par rapport à la prise en charge de notre population iturienne. Il y a eu beaucoup de victimes d'atrocités, et beaucoup de cas de violence, d'accidents de trafic routier, beaucoup de pathologies liées peut-être au brûlure, mais c'était franchement un besoin pressé de la population parce que vu le nombre de victimes, vu le nombre de cas que MSF vient de soigner pendant 2 ans, c'est autour de 4000 qu'on a pu sauver ici avec notre partenaire. Il y a des malades qui ne sont pas proches ici dans la ville de Bunia, alors dans les périphéries. Il faut absolument déployer cette ambulance si par exemple c'est dans la zone de santé de Rwambara ou dans la zone de santé de Komanda. À un moment donné, cette ambulance veut partir, retirer les malades de là et aussitôt quand le malade ramène ici, la prise en charge devient totale.
À noter que 15 zones de santé sont concernées par ce projet et devraient chacune recevoir une ambulance pour faciliter le transport des malades vers le centre de santé locaux. Dans la province du Maniema, 40 femmes vulnérables ont reçu des kits pour des activités génératrices de revenus. Cette aide d'une valeur de 3 453 dollars américains est offerte par l'ONG italienne Aves Peves dans le cadre de son programme de soutien aux enfants et familles démunies visant à faciliter leur accès à la scolarité. Suivez ce reportage de Florence Kizalunga.
Chacune de ces femmes a au moins 3 enfants qui ne s'est pas scolarisée. Avec cet appui, elles espèrent élever les 2 filles. Ces bénéficiaires satisfaites précisent qu'elles vont se lancer dans le commerce de riz et d'huile de palme. Hélène Lukika est leur présidente.
Au nom de toutes les mamans, nous remercions ONGPVS Only de nous avoir accordé un travail pour nous prendre en charge. Nos enfants n'étudiaient pas. On avait juste les moyens de les nourrir, mais pour les scolariser, c'était très difficile.
Le responsable de cette structure en province les appelle à la responsabilité. Tambouera Diabou Bernard.
Nous attendons d'elle qu'elle prenne au sérieux la vente de ses activités génératrices de revenus pour subvenir aux besoins de leurs enfants.
Le maire accepte d'accorder une exonération de quelques mois à ses mamans pour leur permettre de bien travailler. Atibou Moulamba.
C'est vraiment encourageant. En ce qui concerne les taxes relevant de la compétence de la ville et des communes, je vais me concerter avec mes collaborateurs de sorte qu'on puisse leur accorder un délai de grâce durant lequel ces mamans-là ne paieront rien.
Bien avant cette remise, ces femmes ont été formées dans l'entrepreneuriat, plus précisément sur les activités génératrices de revenus pendant 3 mois. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Tchad, l'ancien premier ministre Success Masra a été interpellé à l'aube ce vendredi à son domicile par des membres des corps de défense et de sécurité. Selon ses lieutenants, il a été amené vers une destination inconnue. Des membres de son parti indiquent que le motif de son arrestation n'a pas été communiqué aux personnes présentes sur place. Quelques heures plus tard, le procureur de la République, Omar Kedelaï, a tenu une conférence de presse. Il a déclaré que l'enquête s'est poursuivie et que Success Masra est accusé d'avoir lancé des appels à la haine et à la violence via ses réseaux sociaux. Il est désormais poursuivi pour complicité d'assassinat, incendie volontaire et profanation des sépultures. Le parquet a précisé que ces messages seraient liés à l'attaque meurtrière survenue mercredi dernier dans le village de Mandakao qui a fait 42 morts, principalement des femmes et des enfants.
L'invité.
Éric Mukandilamalo, secrétaire permanent de la Commission nationale de réfugiés CNR, est notre invité dans cette édition du journal. Il nous parle de la signature d'un accord entre la CNR et l'Office français pour le réfugié et les apatrides visant à renforcer les capacités de ses membres. Éric Mukandilamalo s'entretient avec Étienne Lissoumbou. Suivez.
Monsieur le secrétaire permanent, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de signer un accord avec le OFRA. Pouvez nous dire c'est quoi l'objectif de cet accord?
Oui, avec OFRA, qui est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Nous avions engagé dans de pourparlers, ça fait déjà plus d'une année. Et aujourd'hui, c'était l'aboutissement de ces discussions qui nous ont amené à la signature d'un accord de partenariat qui nous permettra d'échanger sur les mesures de protection entre nos deux institutions et échanger sur les expériences professionnelles de ces deux institutions.
Alors, comment est-ce que s'est fait l'identification des réfugiés?
L'identification des réfugiés est un long processus qui commence à partir de l'entrée au niveau de la frontière avec des services de la DGM, de services de renseignement et de la police nationale. Et une fois identifiés, on fait de notre mieux pour s'assurer que les réfugiés sont réellement des demandeurs d'asile et que ce sont des civils. Le caractère civil est primordial pour nous parce qu'il faut séparer ceux qui ont pris des armes par rapport aux civils qui entrent sur notre territoire. Alors, une fois qu'on a fait cette première étape, on passe à l'enregistrement qui consiste à les enregistrer pour pouvoir aller maintenant les mettre dans la base de données qui est un processus biométrique. On prend les empreintes digitales et puis on prend l'iris pour que ces gens qui viennent sur notre territoire soient identifiés dans notre base de données.
Avec la situation actuelle, sécuritaire actuelle, quelles sont les mesures qui sont prises?
La situation actuelle nous met dans une situation inédite. La situation est un peu complexe pour l'instant, mais nous continuons à œuvrer tel que nous l'avons toujours fait dans le passé, au niveau de frontières qui sont encore contrôlées par le gouvernement congolais. Nous procédons de la même manière, donc nous n'avons pas assez de difficultés pour identifier les nouveaux demandeurs d'asile et les réfugiés qui sont sur notre territoire. Du point de vue sécuritaire, il n'y a aucun problème.
Et comment organiser les logements ?
Les logements, c'est un défi énorme parce que la majorité des demandeurs d'asile ou des réfugiés qui entrent sur notre territoire sont d'abord accueillis par les familles d'accueil. Et le reste, nous soumettons les besoins au niveau de partenaires qui nous aident à ériger des abris vraiment temporaire, parce qu'un réfugié n'est pas supposé rester réfugié pour le reste de sa vie. Et donc ce sont des abris que nous construisons avec nos partenaires, en particulier ACER, pour accueillir ces gens tant soit mieux dans la dignité et la sécurité.
Alors pour terminer, les contrats que vous venez de signer aujourd'hui avec OFRA, est-ce à long terme ou à court terme?
C'est un contrat que je souhaite à long terme, parce que si vous avez entendu ce que la directrice de cabinet, le directeur général de l'OFRA a dit, ils ont une longue expérience. L'OFRA existe depuis 1952 et nous avons été créés il y a une vingtaine d'années. Et donc je pense et je souhaite que ce soit un partenariat de longue portée et que nos échanges soient vraiment fructueux en termes de connaissances et des stages au niveau de l'OFRA, et pourquoi pas eux aussi venir apprendre comment nous gérons les réfugiés, les demandeurs d'asile sur notre territoire national.
Merci beaucoup, monsieur le secrétaire permanent.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité Eric Mukandila Malo, secrétaire permanent de la Commission nationale des réfugiés, expliqué au micro de Étienne Lissoumbou de la signature d'un accord entre la CNR et l'Office français pour les réfugiés et les apatrides visant à renforcer les capacités de ses membres. Et voilà, c'est la fin de ce journal sur Radio Okapi. Un grand merci à Alain Goy pour la mise en onde, à Jacques-Yves Molima pour la coordination et à Alain Hirung pour la supervision, à la présentation Gisèle Cage. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour une nouvelle édition. Restez à l'écoute.